Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 11 mars 1992.
Petite question. Lorsque vous avez examiné la première modalité de l'être en acte, vous avez dit la substance subsiste par elle-même, elle a son essai. Mercredi dernier, vous avez dit l'âme individuée, ma substance, ne subsiste pas par elle-même, elle réclame l'essai. Comment concilier ces deux affirmations? Vous avez raison, c'est pas commode. Mais c'est juste, c'est très délicat. C'est le passage, toujours, de la substance comme principe premier selon la forme de ce qui est. Donc, la découverte de la substance comme principe selon la forme de ce qui est. Parce que la substance comme principe, elle est première. Et la forme, c'est toujours ce par quoi on est capable d'exister. Mais alors, elle subsiste par elle-même. C'est en opposition vis-à-vis des accidents. Alors, le par elle-même, évidemment, peut être équivoque. C'est le troisième katoto d'Aristote. Je prends exprès ça pour vous habituer à réfléchir sur les katotos. C'est les percées des katotos. C'est le troisième percée des analytiques. Où Aristote donne les quatre percées. Donc les quatre lignes où on trouve une nécessité. C'est tout le fondement de la philosophie comme science, ce que Aubanque n'a pas su voir. C'est un passage très important dans les analytiques, dans les seconds analytiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la substance, parce qu'elle est principe selon la forme, a un ordre immédiat à l'exister. Ça ne veut pas dire, voyez, qu'elle implique l'exister par elle-même. Ce sera Spinoza qui dira ça. Alors il dira, puisque la substance subsiste par elle-même, il n'y a qu'une seule substance, Dieu. Je parle de l'âme, je parle de l'âme individuée. Donc, le pos, le comment de ma substance. Et le comment de ma substance exprime justement sa capacité d'exister, mais qu'elle n'existe pas par elle-même. Sa limite. Oui. Alors comment bien comprendre cela? C'est que la vision du principe implique quelque chose d'indivisible, de premier, donc d'indivisible. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la substance subsiste et que si elle subsiste, elle a laisser directement, sans intermédiaire. Alors, par elle-même, comprenez, sans intermédiaire. pourrait dire, comprenez, elle a un droit à l'essai, parce qu'elle est principe. Mais si je regarde la manière dont elle existe, son pose, je vois que, de fait, ce n'est pas par elle-même qu'elle existe. Elle reçoit l'essai. Alors, ça semble contradictoire, c'est vrai. Ce n'est pas contradictoire parce que c'est sur deux aspects différents. Le TST et le pose. Alors, ce n'est pas contradictoire, mais c'est pas commode à comprendre. Ça, je comprends très bien. Et c'est très difficile de l'exprimer autrement. Je crois que pour bien le comprendre, il faut saisir implicite et explicite. C'est l'analogie de l'être en acte par rapport à la substance. Quand je dis que la substance subsiste et qu'elle a l'essai, je parle de l'essai implicitement. Elle a un droit à l'essai. Elle est capable d'exister par elle-même, sans intermédiaire. Quand je prends le point de vue du pose, j'explicite l'essai et je dis qu'elle reçoit l'essai. Oui. Autrement dit, l'intelligence humaine n'a pas l'intuition de l'être. C'est pour ça que ça touche à quelque chose de très fondamental, ça. L'intelligence humaine n'a pas l'intuition de l'être. S'il y avait l'intuition de l'être, elle saisirait tout de suite substance et acte dans le même regard. Parce que l'être est acte, l'être est substance. En premier lieu. Si l'être, en premier lieu, c'est-à-dire considéré en lui-même, dans ce qu'il a de plus lui-même, l'être est substance. Mais nous devons le découvrir par une analyse. Je n'ai pas l'intuition. Donc, en le découvrant par une analyse, j'explicite la primauté de ce qui est dans l'être, dans l'ordre de la forme, selon la forme. C'est pour ça que je dis que la substance est principe selon la forme. Et je dis ça parce que ma première analyse, il faut tout le temps venir à ça, hein, ma première analyse de la réalité, c'est au niveau de la philosophie de l'art. Je saisis en premier lieu la distinction matière-forme. Cette distinction matière-forme est la distinction première dans l'ordre génétique. Parce qu'elle est première dans l'ordre génétique, je vais la trouver partout. Et le théologien la transpose jusque dans les sacrements. C'est terriblement audacieux. Et les gens répètent matière et forme du sacrement sans rien comprendre, sans voir que c'est l'analogie avec l'œuvre d'art. Et le sacrement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit avec l'homme qui coopère. Dans tout sacrement, il y a l'Esprit Saint qui est principe, et l'homme coopère. Il est la matière. On est la matière des sacrements, hein. Pour le sacrement de pénitence, c'est l'aveu de nos fautes qui est la matière du sacrement. Si vous n'avouez rien, pas de matière, le Saint-Esprit ne peut plus rien faire. Quand il n'y a pas de matière, on peut agir si on crée. Ex nihilo. Mais dans l'ordre surnaturel, on présuppose la nature. L'Esprit Saint se sert de nos péchés avoués, pas de nos péchés actuels, mais de nos péchés avoués pour réaliser le pardon, la justification. Mais matière et forme, c'est très curieux, vous retrouverez ça dans toute analyse de saint Thomas, et c'est répété dans les sacrements matière et forme. Et ceci provient de l'analyse de l'œuvre d'art. Autrement dit, le selon la forme et selon la matière exprime le pli premier de mon intelligence quand mon intelligence analyse. Quand mon intelligence analyse, elle analyse toujours en premier lieu en découvrant forme et matière. Parce que génétiquement, c'est la première division que je découvre. C'est la plus grosse, matière et forme. Mais c'est dans l'œuvre d'art que je la découvre. Alors, transposé dans l'ordre de l'être, qu'est-ce que je découvre en premier lieu? La source de toute détermination, la substance. Or, la forme, primauté selon la forme dans l'ordre de l'être fait que ce principe indivisible, il est l'être en acte. C'est sûr. La puissance n'est pas l'être en puissance. Donc il est l'être en acte. Mais implicitement, je ne pourrai l'expliciter qu'en découvrant d'une autre manière, par une autre induction, l'être en acte. Alors, voyez, il faudrait dire, pour être tout à fait précis, c'est pour ça que c'est bien d'avoir relevé ça, la substance subsiste par elle-même. Elle a implicitement laissé. Elle a laissé. Laissé est en acte dans la substance, mais implicitement. Il faudra une nouvelle analyse pour expliciter l'être en acte. Parce que ce qui est premier dans l'être, la substance, est nécessairement acte. Mais implicitement. Vous voyez, c'est ça qu'on veut dire quand on dit que la substance subsiste par elle-même. Elle a un droit à laisser parce qu'elle est première. Si elle est première, elle ne peut pas être en puissance. La puissance est toujours seconde dans l'ordre de l'être. Donc tout ce qui est premier, eh oui, il y a un droit à l'acte, mais c'est qu'implicite. Et je ne pourrais l'expliciter que par une nouvelle découverte, une nouvelle induction, l'induction de l'être en acte, d'être en puissance. Mais je pourrais dire aussi, comprenez bien, que l'être en acte est premier. Donc tout être en acte, du fait même qu'il est l'être en acte, est substance. On ne le dit pas, là. C'est pas la peine qu'on a découvert la substance avant. Mais c'est vrai, l'être en acte, parce qu'il est premier, mais est substance. Implicitement. Et cependant, par rapport à l'homme, l'être en acte ne va pas être toujours substance. Il est substance dans l'essai. De l'un à l'autre. Alors, ça éclaire, je crois. Ça éclaire le niveau différent du TST, fruit de l'analyse. C'est un principe. Le principe comme tel n'est atteint que par l'intelligence. Le principe comme tel ne subsiste comme principe, comprenez bien, comme principe, que dans la découverte que j'en fais. Là, j'en saisis ce qu'il a de tout à fait formel, mais le principe existe dans la réalité, sous une forme individuelle, avec tout le dans notre monde, pour nous. Mon âme, comme principe, c'est mon intelligence qui le saisit. Mon âme, en réalité, elle existe dans mon corps. Donc quand je touche mon âme. Et quand vous êtes de bonne humeur, vous dites, oh, quelle belle âme. Et quand vous êtes de mauvaise humeur, vous direz, quoi ? Vous touchez votre âme. Alors, touchez votre âme, vous voyez comment ça veut dire ? Implicitement. Parce que seule votre intelligence explicite ce qu'est l'âme. Vous touchez un corps vivant, pas un cadavre. Vous touchez un corps vivant. Si vous touchez un corps vivant, ce corps est vivant par l'âme. Donc c'est bien l'âme, dans son fruit premier, qui informe le corps. Mon âme n'est pas loin. Elle est dans mon corps. Et mon corps est la demeure de l'âme. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, je touche le Saint-Esprit en touchant mon corps. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous le respectez. Temple du Saint-Esprit. Mais implicitement, pas explicitement. Vous voyez, toute l'analogie joue sur l'implicite et l'explicite. C'est pas très commode, mais c'est intéressant à bien voir ça. En saisissant la substance, je saisis explicitement le premier dans l'ordre de la forme. Mais je saisis implicitement le premier dans l'ordre de l'acte. Ça peut pas être autrement. Je ne peux pas couper au couteau substance et acte. C'est le fruit d'une analyse. Dans la réalité, les deux sont présents. Mon âme existe. Et mon âme, c'est pour ça que quand saint Thomas, en théologien, se sert de la philosophie, saint Thomas se sert aussi bien de la substance et de l'acte. Il dira tout le temps, c'est par la forme que j'existe. C'est par la forme que j'existe. Pourquoi ? La forme, dans ce qu'elle est de première, c'est la substance. Elle subsiste par elle-même. Alors, le subsiste par elle-même, comprenez bien, ça ne veut pas dire qu'elle existe concrètement par elle-même. Non, elle a un droit à l'exister. Autrement, vous diriez, la substance, si elle subsiste par elle-même, elle n'a pas besoin d'être créée. Vous voyez le problème ? Et c'est ce que Spinoza a très bien saisi. Spinoza a dit, mais la substance ne peut pas être créée, elle est première. Ce qui est premier ne peut pas être créé. Parce que ce qui est créé est toujours second. C'est sûr. Ça ne peut être que second, c'est relatif au premier. Donc la substance comme telle ne peut pas être créée. Alors, ça a été un des gros problèmes de saint Thomas. Hein. C'est dans le commentaire du De Causis que saint Thomas traite toute cette question de montrer comment la substance peut être créée. Pourquoi ? Parce que l'acte créateur se termine à une réalité concrète. Subsistante. Donc, le principe comme tel n'est pas le terme de l'acte créateur. Il est présent dans la réalité créée. Mais le principe n'est pas créé pour lui-même. C'est la réalité subsistante qui est créée. Et donc, on dira que le principe, il est concret. Il est créé en même temps que la réalité. première, autrement elle serait pas créée. Et elle peut impliquer en elle-même un principe. Parce que le principe n'est pas ce qui existe parfaitement en soi. C'est la source qui permet de comprendre d'exister. Vous voyez, c'est pas commode, je suis tout à fait d'accord. Vous habituez progressivement à toute cette connaissance analogique, le passage de la réalité concrète au principe. Et c'est très important, ça fait comprendre comment quelqu'un comme Malebranche dira que il n'y a pas de principe, il n'y a pas de cause dans la créature. Parce que qui dit principe, cause dit quelque chose de premier, qui dit créer dit quelque chose de second. Ce sont des grosses confusions qui se trouvent à l'intérieur même de ce qu'on appelle l'ontologisme. Alors je tombe des deux côtés où je dis la substance ne peut pas être créée puisqu'elle est principe. Si elle ne peut pas être créée, donc Dieu ne crée que des réalités contingentes et radicalement contingentes. Donc il n'y a pas de principe en moi. L'âme, c'est un accident. Elle ne subsiste pas par elle-même. Il faut arriver à comprendre que le principe est saisi comme ce qui est premier, fondamentale dans l'ordre de l'analyse de l'être. Et quand on dit ce qui est premier dans l'ordre de l'être, il faudrait préciser. Ça se fait tout le temps, mais on peut pas. On dirait ce qui est premier dans l'ordre de l'analyse de l'être. Alors là, vous êtes tout à fait précis. Dès que vous analysez, vous pouvez saisir un principe. Mais si vous n'analysez pas, vous ne saisissez pas le principe. Vous décrivez. Et l'ontologisme n'analyse plus, n'analysant plus, ne faisant que décrire, ne peut plus. Alors c'est pour ça que vous avez un ontologiste de droite et un ontologiste de gauche. L'ontologiste de droite dit Dieu, puisque nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes tous radicalement relatifs à Dieu. Et en nous, il n'y a cet ordre vers Dieu. L'ontologiste de gauche, puisqu'il y a en nous un principe, on n'est pas créé. C'est nous qui sommes Dieu. Et le vieux restant de Spinoza. Deuxième question. Vous avez dit la substance individuelle, c'est le corps. Quelle est la place de l'âme dans la substance individuelle? La substance individuelle, c'est le corps, comprenez bien. Le corps est une substance individuelle. Mais ce par quoi cette substance individuelle existe, ce par quoi, j'explicite le principe, c'est l'âme. Oui. Et le corps est une substance individuelle. Mais cette substance individuelle n'existe comme substance individuelle que par l'âme. Je retrouve matière et forme. Vous avez dit l'essai n'est pas la matière prime, n'est pas la materia prima. Or, celle-ci est substance pure. La materia prima n'est pas substance pure. Elle est substance radicale, en puissance. Donc, elle n'est pas substance pure. Elle est toujours quelque chose de second, source de l'individuation, source radicale de l'individuation. Donc, qu'est-ce qui actue la matière? Donc, est-ce qui actue la matière propre, la matière prima? Cela peut-il être le fait d'exister? Je disais que la materia prima ne peut jamais exister immédiatement. déterminer la materia prima. Déterminer la materia prima. Et qui permet à la materia prima d'exister par cette forme. Vous prenez ce petit schéma. Vous avez l'SC. Vous avez la materia prima. Les deux extrêmes de l'analyse d'une réalité physique. J'existe. Je suis. L'homme peut dire je suis. Je suis. Donc, il y a l'essai en moi. Oh, je suis implique le corps. N'hésitez pas de poser comme ça des précisions parce que ça aide à mieux comprendre. Alors, y a-t-il un lien, une correspondance entre les cinq sens et les cinq modalités de l'être en acte? Oui, mais ça, en critique, on pourra le faire au terme si vous voulez. Pas tout de suite. Pouvez-vous éclairer le mystère de la présence réelle dans l'Eucharistie, essence, materia prima? Attention. Alors là, on touche quelque chose de très très particulier. Ce que le théologien appellera la manière d'exister selon la la sacramentalité. Ça, c'est... La présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, présence du corps du Christ, est une présence selon un mode spécial, qui est le mode sacramentel. Ce n'est ni la présence, la manière d'exister de Dieu dans le ciel, ni la manière d'exister de Dieu quand il était à Nazareth, de Jésus quand il était à Nazareth. C'est une manière particulière que le Christ, dans sa sagesse de législateur, a réalisé. C'est quelque chose de sui generis. Et c'est pour ça que c'est si difficile de bien préciser. Jésus présent dans l'Eucharistie, le corps du Christ présent dans l'Eucharistie, est réellement présent. Mais il n'est pas présent à la manière des corps physiques. Il n'est pas présent à la manière de son corps glorieux. C'est un type particulier de présence. Et on précisera en théologie ce mode de sacramentalité, ce par quoi il est présent, selon le mode eucharistique. Alors, il est présent selon un mode symbolique, d'un symbolisme divin. Toujours. Tous les sacrements impliquent un signe. Tous les sacrements. Manifeste pour nous le mystère, un signe qui est en même temps un instrument de grâce. Et il se communique, et la grâce correspond à la grâce propre de chaque sacrement, est en harmonie, en correspondance avec le signe. Et c'est une invention de la sagesse de Dieu, le sacrement. C'est un mode spécial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de théologiens ne connaissent pas assez leur métaphysique. Alors, j'ai lu ça il y a quelque temps. Un bon prêtre de Paris disant « Jésus n'est pas présent physiquement ». Alors les gens étaient affolés. J'ai reçu des lettres. Genre, est-ce qu'on peut dire ça? Parce que la scolastique décadente, pour bien montrer qu'il y a une présence objective, dit ce n'est pas une présence morale. C'est très vrai. Jésus n'est pas présent là à cause de ma ferveur. Je désire qu'il soit présent, donc il est présent. Jésus est tellement bon que tous mes désirs, il les réalise. Donc j'ai un très grand désir qu'il soit présent, il est présent. C'est l'attitude protestante, du moins de certains protestants, parce qu'on ne peut pas préciser. Certains protestants disent, il est présent dans la mesure où on désire qu'il soit présent. L'assemblée chrétienne fait que Jésus est présent. Dans la mesure où il est présent, dans la mesure où je le désire, on dira non, il est présent objectivement. Alors pour montrer l'objectif, on opposera le moralitaire au physique, ce qui est vrai dans le monde physique. Mais vous comprenez que le physique du sacrement est autre que le physique du monde physique. Mon corps est présent physiquement ici. Et votre corps est présent physiquement. Votre âme, elle n'est pas présente physiquement. Elle est présente comment? À travers votre corps. Elle est présente à travers votre corps. Le Christ est présent dans le sacrement, non pas physiquement. Alors c'est là où quand vous dites ça, il n'est pas présent physiquement. Les gens disent, alors, il n'est plus présent réellement. Comprenons. Il y a une présence autre. objective, mais qui n'est pas physique, qui n'est physique que par le signe. Mais Jésus n'est pas dans le signe. Le signe, il est là pour manifester la présence. Mais il n'est pas la présence. À communier dans la main, je leur disais, oh, c'est tellement merveilleux, je touche Jésus. Non, je regrette. C'est par la foi que vous touchez. Vous touchez les espèces sacramentelles. Mais Jésus n'est pas les espèces sacramentelles. Les espèces sacramentelles sont le signe de sa présence. Ces espèces sacramentelles dépendent de l'univers. Les hosties peuvent se corrompre. Ça arrive, je me souviens. C'est pas très. Ça vous fait toujours beaucoup de peine de voir ça. Quand on dit la messe dans une petite paroisse, auquel on dit la messe, je me souviens, au moment de la communion, grâce à Dieu, j'avais regardé avant. Mais les hosties étaient corrompues. Mais il y avait comme des. Comme quand le pain se corrompt, il y avait toute une espèce de mousse. Je ne veux pas donner la communion comme ça. Parce qu'il n'y a plus la présence. Ce n'est pas mangeable. Donc c'est plus les espèces du pain. Parce que c'est plus les espèces du pain. La présence réelle du Christ n'y est plus. Alors par respect, on brûle. Tout simplement. On ne le fait pas devant les fidèles, on le fait à la sacristie. Parce que les fidèles ne comprendraient pas, il faudrait leur expliquer toute une. Mais par respect, on brûle. Et on ne va pas donner ça en communion aux fidèles. C'est comme quand le vin n'est plus du vin. Vous voyez, c'est très curieux. La présence mystérieuse, sacramentelle du corps du Christ est présente par l'espèce, le signe. Le signe le relie à notre monde. Mais il n'est pas présent dans ce signe. Il est présent à travers ce signe. Il est relié, sa présence est reliée par ce signe. C'est pour ça que le corps du Christ dans l'Eucharistie, je ne peux pas dire qu'il est présent physique. Et d'autre part, je dois dire qu'il est présent réellement, objectivement, selon un mode particulier, qui est le mode sacramentel. Alors comment expliquer ça? Je crois que la seule analogie, en transposant, c'est l'intentionnalité. C'est l'intentionnalité. Mais en comprenant analogiquement, pas univoquement. Parce que univoquement, on tomberait dans l'erreur de ceux qui, dans le dernier concile des théologiens, avaient dit qu'il faudrait supprimer le terme transsubstantiation que les protestants n'acceptent pas, en disant tout simplement dire trans-objectivité, trans-finalité. Oui, parce que transsubstantiation montre que ce n'est plus la substance du pain, c'est la substance du corps du Christ. C'est la substance du corps du Christ, selon ce mode sacramentel. Et quand on dit c'est la substance du corps du Christ, c'est pour montrer qu'il est réellement présent. Et qu'il est présent substantiellement. Ce que dit le concile du 30. Vous voyez comme c'est délicat si on n'a pas une métaphysique et une philosophie très nette qui distingue l'intentionnalité du réel physique. Alors, comprenons bien, c'est une intentionnalité substantielle qui est unique. seule chose qu'on peut dire. C'est la seule chose. Si vous voulez aller jusqu'au bout de la compréhension, et c'est tout à fait normal, le mystère s'exprime par deux analogies qui, humainement, sont contradictoires et qui ne sont plus contradictoires dans le mystère. Votre théologie, vous ne la comprenez que théologie scientifique, que lorsque vous avez deux analogies que vous servez pour essayer de dévoiler le mystère. Et le mystère est au-dessus, au-delà de ces deux analogies. Et ces deux analogies me conduisent au mystère. Intentionnalité pour montrer que ce n'est pas le monde physique. Substantiel pour montrer que c'est la réalité totale. Ce n'est pas un substitut de Dieu, du Christ. C'est vraiment le corps du Christ, substantiellement, qui est présent. Vous voyez, toutes ces études que nous faisons en métaphysique sont nécessaires si on veut entrer dans la théologie du mystère de l'Eucharistie. C'est pas étonnant, c'est une œuvre de sagesse. Alors, si c'est une œuvre de sagesse, ou vous répétez, le bon croyant, je crois, ne m'en parlez pas, j'aime mieux pas. Je connaissais quelqu'un comme ça. Qui était un médecin, donc qui aurait dû être un tout petit peu subtil, mais qui avait une peine énorme. Alors dès qu'on lui donne une explication théologique, oh, j'y comprends plus rien du tout. J'aime mieux adhérer au mystère, tant pis, j'y comprends rien, mais je. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont peur de l'explication théologique, qui ont peur de l'explication d'une philosophie au service de la foi. Ah, c'est mieux. Mais c'est dangereux. Parce que quand ils seront devant quelqu'un qui fera des objections, ils ne pourront pas répondre. Le croyant doit toujours être prêt à justifier sa foi. Donc, voyez bien, quand il s'agit du mystère de l'Eucharistie, ne dites pas essence, matière première. Ne prenez pas cette distinction-là. Vous êtes dans un autre ordre. Vous êtes dans l'ordre de la sacramentalité. Et donc, vos distinctions métaphysiques, directes, la seule qui joue, substance, être en acte. Le corps du Christ est en acte présent. Et il est substantiellement présent. Mais selon un mode d'être totalement différent de celui du ciel et de celui de la terre. Quand il était présent auprès de Marie. Quand il était présent en Marie. D'un mode nouveau. Et ce mode nouveau, il faut essayer de l'approcher. Et on l'approche par le point de vue du signe et par le point de vue de l'instrument. Et si on veut préciser, on voit que c'est analogue à une intentionnalité divine. C'est une intentionnalité divine. Et donc elle est substantielle. Continuons. Ça, c'est une parenthèse. Je reprends, n'est-ce pas, et je continue pour que, parce que beaucoup m'ont demandé de reprendre ces cinq modalités. Et ils ont raison, parce que c'est très important. Seconde modalité de l'être en acte, la vérité. Alors, certains ont dit, mais comment pouvez-vous dire ça? D'où ça sort? C'est très simple. D'où ça sort? Historiquement, topic historique, historiquement, le livre d'État d'Aristote. Si vous analysez le livre d'État d'Aristote, vous voyez qu'Aristote, après avoir regardé l'être en acte et découvert l'être en acte, parle du vrai, parle du bien, parle des opérations vitales, parle du ça alerte. Le livre d'État d'Aristote, pour Heidegger, c'est le sommet de toute la philosophie grecque. C'est pas si mal quand Heidegger dit ça. C'est le sommet. C'est pour ça que chaque année, il faisait un séminaire sur le livre d'État. Mais inaccepté dans ce séminaire sur l'État. C'est quand même capital de bien préciser différence qui existe entre l'esprit et l'être. Pour Descartes, la métaphysique, c'est la métaphysique de la pensée, c'est-à-dire de l'esprit. Et je comprends très bien cette position de Descartes. Au plan descriptif, où l'être est-il le plus parfait pour moi? Où l'être est-il le plus actuel pour moi? Plan descriptif. Mais c'est bien évident que c'est dans ma vie, de mon intelligence. Et dans la vie de ma volonté. Je touche deux sommets de l'être existant. La vérité, la bonté. Le vrai et la bonté. Mon intelligence est capable d'atteindre le vrai. Ma volonté est capable d'atteindre le bien. Au plan descriptif, hein, je dis bien au plan descriptif, je touche, j'ai l'expérience la plus parfaite de ce qui est. En connaissant le vrai et en aimant le bien spirituel, la personne. Ça, je peux pas nier ça. Vous comprenez qu'au plan descriptif, c'est quand même plus parfait d'atteindre la vérité que de toucher mon corps. Mon corps, il existe. C'est donc plus parfait, c'est plus pointu de saisir le vrai et le bien spirituel que de saisir la substance. Parce que, au point de vue descriptif, c'est mon âme dans mon corps. Mon âme n'est jamais séparée de mon corps. Je n'expérimente donc jamais mon âme en tant qu'elle subsiste en elle-même. Elle subsiste dans le corps. Elle subsiste dans le corps. Et donc, ce qui subsiste de mon âme est lié au corps, est lié à la matière prima. C'est beaucoup plus grossier que la recherche du vrai et la recherche du bien. Au plan descriptif, alors, si je suis en présence d'une philosophie qui ne veut plus analyser, qui ne sait plus ce que c'est que l'analyse, qui tombe un peu dans un positivisme, pour moi, la réalité, c'est ce que je touche. Ces idées principes, c'est vous qui l'inventez. Le dialogue que j'avais avec des psychanalystes, il revenait toujours à ça. Mais vos principes, je voudrais les voir. Mais je dirais, vous les verrez jamais. Alors est-ce que c'est vrai? Si vous les avez jamais saisis, je comprends. Mais c'est l'analyse de mon intelligence qui saisit les principes. Le positivisme fait que je n'accepte que ce que je touche, que ce que je peux décrire. Le positivisme peut accepter qu'il y a une certaine recherche de la vérité scientifique, mathématique. Le positivisme peut accepter qu'il y a un certain amour, un certain bien spirituel. Mais s'il n'accepte pas les principes. Donc, dans une position positiviste, depuis Descartes, l'expérience de l'esprit qui atteint le vrai apparaît comme le sommet de toute la métaphysique, de toute la philosophie première. Vous retrouvez ça dans Heidegger. C'est pour ça que je dis, c'est pas purifié entièrement du positivisme, Heidegger. Il n'a pas découvert l'induction. Et donc, il Ça, c'est le sommet. Je comprends très bien. Pour Descartes, le sommet de la philosophie première, c'est la découverte de la vérité. C'est très important de comprendre ça. De comprendre que dans la mesure où on reste au plan descriptif,